Ja, Herr, wir danken dir. Wir danken dir,
dass du uns remercions, Seigneur.
Und erwählt hast.
Tu nous as appelés, choisis pour te servir dans ta maison. Comme un saint sacerdoce et même un sacerdoce royal, et nous voulons saisir ce service et plus encore le mettre en œuvre à la louange de ta gloire. Bénis aussi cette réunion là où nous sommes ici comme un saint sacerdoce pour nous tenir devant toi et pour te servir. Merci Seigneur.
Louez le Seigneur.
Ja, es ist ein wunderbares Wort, was wir in dieser Zeit hören. Ich habe
C'est une parole merveilleuse
que nous entendons ces temps. Et j'ai cette impression que le Seigneur a conduit si clairement, l'a révélé et nous a conduit à ce passage dans Apocalypse 22 où nous voyons encore une fois une telle image, une telle description de ce qu'il fait, là où il nous conduit et ce que nous jouirons aussi dans l'éternité, que nous sommes au trône de Dieu. Et là, ce n'est vraiment pas sec, il y a un approvisionnement avec ce fleuve d'eau de la vie, un arbre de vie qui apporte 12 fruits, un fruit tous les mois, quelle fraîcheur, quelle vie. Maintenant, il y a eu des mois où les arbres étaient sans feuilles, nus, mais c'est jamais le cas avec l'arbre de vie. Il y a toujours un fruit dont nous pouvons jouir. C'est merveilleux avec cet arbre de vie. Et nous sommes là pour en jouir. Et nous servons le Seigneur. Et cet arbre n'est pas seulement... Et puis il y a ce trône et cette eau ne sont pas juste là. Ils sont dans la ville de Dieu. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, dans cette ville, au centre. C'est une image. Et c'est aussi un fardeau que j'ai ce matin.
Et j'ai été interpellé par ce
verset dans 1 Pierre 2, verset 5. Il amène deux choses ensemble, deux choses précieuses que nous voyons aussi dans Apocalypse. En fait, nous sommes édifiés comme des pierres vivantes pour former une maison spirituelle pour un saint sacerdoce, pour offrir des victimes spirituelles qui sont agréables à Dieu par Jésus-Christ. Comme un frère a déjà mentionné, il n'y a même pas de « et » édifié pour former une maison spirituelle et après nous sommes édifiés pour être un sacerdoce royal. Non, il y a une maison spirituelle et un saint sacerdoce. Ils vont ensemble. Ce sont deux aspects de la même chose, de la même vision.
Et c'est pourquoi je suis très content d'avoir, que nous ayons pour
une conférence pour parler de ce sacerdoce que nous considérions de nouveau, parce que ça va de pair avec la maison. La maison de Dieu a besoin d'un sacerdoce qui sert Dieu. Le Seigneur l'a toujours révélé ensemble. Quand il a révélé le tabernacle, tout de suite, il a aussi révélé le sacerdoce et le service. Et Salomon a bâti le temple et il y avait aussi ce sacerdoce. Dans Apocalypse, nous voyons la ville et les serviteurs qui servent là-bas. Et aujourd'hui aussi dans l'église, c'est ainsi. Et je dois dire,
nous ne devons
pas nous laisser prendre cette vérité. même si dans notre expérience quelque chose s'était développé et qui avait amené des dommages, où ça a pris une mauvaise direction, c'est devenu une méthode qui ne correspondait pas à la vie. C'est pourquoi il est important que nous surmontions ces choses et que nous gardions la vérité dans l'amour. Et nous laissions ce qui ne correspond pas à la vérité, à la parole. Je ne vois pas cette méthode des offrandes dans le Nouveau Testament. Nous devons rester à la parole. Nous devons toujours examiner à la parole et dans la vie ce que nous entendons. Nous n'avons pas une théologie sur le sacerdoce, louer le Seigneur, mais nous avons l'Esprit qui nous conduit dans la vérité. Et si nous avons une bonne relation avec le Seigneur, nous avons aussi un bon sentiment pour ce sacerdoce, et nous pouvons saisir ce service avec joie et l'exercer dans sa maison. Et c'est aussi très précieux. C'est très précieux que nous ayons tous part à ce service. Je voudrais encore l'évoquer. Ceci m'a plu dans Apocalypse 5, dans ce passage, où il y a cette louange pour l'agneau. Et il y a cette louange où il est proclamé, tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir le livre avec les sept sceaux. Et tu as racheté les hommes de toute origine. Et tu as fait de quelques-uns un royaume et des sacrificateurs, non? Non, tu as fait de tous. Nous sommes rachetés et quelques-uns ont été et quelques-uns sont des sacrificateurs. Non, nous sommes tous appelés à être des sacrificateurs. Si le Seigneur t'a racheté par ton sang, et si tu l'as reçu, alors tu as été appelé à être un sacrificateur. Tu as été appelé à être un sacrificateur pour ce royaume, pour ce sacerdoce royal. Et tu as cet appel, cette vocation pour régner avec lui sur la terre. Et ceci est la volonté de Dieu pour nous tous. Il nous a rendus capables. Je trouve aussi, comme Paul dit dans 2 Corinthiens 3, Paul parle de ce sacerdoce, ce service de la Nouvelle Alliance, et il dit non que nous soyons capables de nous-mêmes, 2 Corinthiens 3, 5, ou même capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Même Paul n'était pas capable en lui-même. Toutes ses capacités, tout ce qu'il avait appris ne l'avait pas rendu capable d'être un ministre de la Nouvelle Alliance, un serviteur de la Nouvelle Alliance. Là, il n'y a pas de différence. Nous ne sommes pas capables en nous-mêmes. Nous sommes tous incapables pour se servir. Nous échouons tous, et pourtant nous sommes tous capables. Nous avons été rendus capables par Dieu. Il nous a rendus capables pour être ministre d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Nous avons été rendus capables. J'ai trouvé que c'était très bon, comme c'est sorti pour ce sacerdoce, dans les témoignages, comme c'est sorti. Nous ne devons pas regarder à nous-mêmes pour ce service. D'après notre concept humain, si nous voulons servir le Seigneur, nous regardons à nos capacités, qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur, et alors je le fais pour le Seigneur. Et ceci n'est pas ce service. Ce service n'a pas sa source dans nos capacités, mais dans l'esprit, dans ce que Dieu nous rend capable, et je l'expérimente toujours à nouveau dans l'Église. Quand le Seigneur veut nous donner un service, je ne me sens pas capable. Et c'est bon ainsi. Si je dois partager ici, si je regarde là, à moi, avant la réunion, je ne me sens pas capable de dire quelque chose dans la réunion. Et je ne sais même pas ce que je dois dire, comment je dois l'exprimer. Et j'ai appris que je ne dois pas regarder à ça, c'est même bon. Je dois regarder au Seigneur. Je dois regarder au Seigneur en esprit par la foi. Il nous rend capables, et il vous a aussi tous rendus capables, les jeunes gens. Vous avez l'esprit, vous pouvez servir dans les réunions. Et si le Seigneur vous touche, alors servez-le. Donnez votre corps, votre bouche au Seigneur et ouvrez la bouche pour le Seigneur. Et le Seigneur vous donnera toutes choses. C'est notre sacerdoce. Dans notre service de sacrificateur, nous ne nous sentons pas capables. C'est bon ainsi, mais ça ne nous empêche pas de servir. Ça ne doit pas nous retenir, nous arrêter. Nous nous détournons de nous-mêmes, mais nous regardons au Seigneur et nous disons, « Seigneur, tu m'as rendu capable par ton esprit et je peux te servir. Je suis un sacrificateur qui te sert dans ta maison. » Je ne suis pas juste ici pour occuper une place. C'est pourquoi je trouve que c'est très important que nous voyons cette image du sacerdoce. Nous pouvons avoir une mauvaise compréhension si nous voyons que nous sommes une pierre vivante. Et donc nous pouvons penser, ça suffit si je suis présent. Hein, quand on voit une maison, les pierres sont à leur place. Elles sont même bien fixées, édifiées, statiques, ça suffit. Mais nous ne sommes pas des pierres. C'est vrai, nous devons être des pierres constantes, bien édifiées, qui restons dans la maison de l'Église, mais ce n'est pas quelque chose de statique. Dans la maison de Dieu, nous sommes aussi des serviteurs, nous sommes aussi actifs. La parole dit... Comme chacun a reçu un don, servez-vous les uns les autres, c'est dans 1 Pierre 4, verset 10. Oui, c'est ça. 1 Pierre 4, verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Nous sommes son corps sur cette terre. Il est la tête. Mais il se déplace au travers de nous. Il veut mener à bien son œuvre. Il a besoin de nous comme son corps. Ce n'est pas une image seulement. C'est une réalité. Nous sommes le corps de Christ par lequel il agit. Et il aime donner des directions. Et il nous dit, là j'aimerais t'utiliser. Et il a besoin de nous que nous allions. Afin que ce que nous donnions, ce qu'il nous donne, nous le partagions dans l'Église, dans les réunions, et finalement à tous les hommes là où nous sommes placés par lui. Louez le Seigneur. Mais dans ce service aussi, je trouve que c'est si bon que nous l'ayons vu, il y a toujours une source. C'est l'approvisionnement de sa vie. Seulement de cette source nous pouvons servir. Je dois vraiment dire au début cela. Je me demandais 4 réunions sur la vie, manger et boire. Et puis soudainement, verset 15, réunion 5, il est parlé du service, un service agréable à Dieu, et ça semblait être 2 thèmes, mais ce n'est pas cela, et j'espère. Et moi, j'ai reçu cette impression de manière très claire que les deux vont de pair. Jouir de la vie, il nous faut laisser couler cette vie en dehors de nous. Et en fait, finalement, le service de sacrificateur, c'est de recevoir la vie et de la laisser couler. C'est l'image du fleuve. Nous ne sommes pas juste des vases qui sommes remplis, et après on peut mettre ces vases de côté, on peut en remplir d'autres. Nous sommes des canaux qui laissons l'eau de la vie rentrer et couler. Et c'est ce que dit aussi le Seigneur dans Jean 7. Nous pouvons encore une fois le lire. Ceux qui veulent le lire. Jean 7, versets 37 à 39. Nous avons aussi aujourd'hui un dernier jour de fête. Lisons-le. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. C'était Jean 7, 37 à 39. C'est si merveilleux. Le Seigneur appelle, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. La première chose que le Seigneur fait, c'est d'appeler à boire. Si je n'ai pas bu, je ne peux rien faire. C'est pourquoi, et c'est toujours la première chose dont nous avons besoin, c'est de boire.
Celui qui
croit en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il ne dit pas qu'ils couleront en son sein, mais de son sein. Ce fleuve d'eau vive dont nous buvons, il sort de nous-mêmes, c'est même une réaction naturelle. Si nous sommes ouverts, ça va simplement se passer. Souvent, notre cœur est fermé. Nous voulons boire, mais nous avons peur de le repartager. Et c'est la pensée de Satan, ça vient de Satan. Il essaye toujours par des pensées nous empêcher de boire. Et là, il y a besoin d'être vainqueur par la foi et nous laissons couler cette eau vive. Et cela rafraîchit chaque réunion. Je suis convaincu, chaque réunion, qu'importe combien nous sommes, même si le Seigneur dit même deux ou trois seulement, si nous nous ouvrons, ce fleuve va couler et nous sommes tous rafraîchis. Je voudrais témoigner brièvement, nous avions un jour, nous étions cinq dans la voiture pour aller à une réunion de jeunes à Stuttgart. Et nous avons constaté, et la réunion a été annulée, nous l'avons constaté en route, et nous étions là. Nous pensions, nous allons venir à une bonne réunion de jeunes avec beaucoup de frères et sœurs. Je dois dire, j'avais été déçu. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que ça valait la peine de venir ici à Stuttgart? Et puis nous sommes placés ici dans une petite pièce. Et nous nous sommes réjouis de 1 Pierre 4, 7. Je me rappelle encore bien. Nous avons pris un verset et nous sommes réjouis. Nous avons prié, nous avons lu. C'est resté dans mon cœur jusqu'à aujourd'hui. Je pense que c'était une de mes meilleures réunions de jeunes. J'étais pleinement dans ce fleuve. Je n'étais pas là pour écouter beaucoup. Je me suis placé dans ce fleuve et nous nous sommes réjouis et nous étions tous remplis. Le point, est-ce que je m'ouvre à ce fleuve? Je peux le faire naturellement aussi dans cette grande réunion et l'expérimenter. Le point, c'est de s'ouvrir et de le laisser couler. Et que nous ouvrions aussi notre bouche. Et c'est ce que le Seigneur dit. Ouvre ta bouche et je la remplirai, dans le psaume 81. Et le point aussi ici, pour ce service, il faut toujours être rempli d'être dans ce fleuve. Et nous en avons parlé dans la voiture aussi, une sœur a parlé, a témoigné dans le passé quand elle était dans l'église à Stuttgart, il y avait beaucoup de réunions de service, mais au début, il y avait toujours un moment pour boire. Ils n'ont pas juste servi pour parler du service, mais c'était tout à fait normal de commencer à invoquer le nom du Seigneur, à manger quelque chose dans la parole. Nous venons d'abord à cette source et après nous servons. Et je crois que c'était ainsi, qu'il n'y avait pas tant de problèmes sur les d'opinions, je veux le faire comme ça, comme ceci. Le fleuve était là et remplissait ce service. Et c'est aussi un service dans l'unité. Beaucoup plus facile que si nous cherchons à nous organiser nous-mêmes. J'ai l'impression, quand elle a témoigné de ça dans la voiture, nous devons le regagner dans toutes les églises. Mais afin que nous ne menions pas bien juste ce service, mais que nous nous remplissions de l'esprit. Il n'y a pas de forme, mais d'être ouvert au Seigneur. Prenons un temps avec le Seigneur, à regarder au Seigneur. Je crois que ceci est très précieux. Il nous rafraîchit dans la maison de Dieu.
Et
je voudrais encore prendre ce point.
Cette merveilleuse parole dans 1 Pierre 2 et dans d'autres passages, c'est que c'est aussi un sacerdoce royal. Pas juste un saint sacerdoce, mais aussi royal. Ceci montre notre position. Nous avons une position. Le Seigneur a fait de nous des sacrificateurs, mais pour son royaume, nous devons régner avec lui. Et ceci est toujours à nouveau mis en évidence, et la parole insiste là-dessus. Et en fait, c'était la destinée, la vocation de l'homme dès le départ. Dans Genèse, il est dit, vous devez régner, dominer. Et qu'est-ce qu'il a donné aux hommes pour régner? Leur a-t-il donné une armée pour que les hommes règnent? Non, l'homme avait besoin de l'arbre de vie. Il avait besoin d'un jardin, un fleuve d'eau vive.
Et le Seigneur voulait dire, alors
prends ma vie et tu pourras régner par moi. Et toute la parole étant en harmonie et claire, elle ne dit pas une fois d'une manière ou d'une autre. Vous n'avez pas besoin d'une armée, vous avez besoin de mon armée. Et cela doit se passer ainsi. Et c'est ainsi que nous voulons apprendre à régner avec le Seigneur. C'est important de le saisir. Saisir ce sacerdoce royal.
Et je voudrais aussi
évoquer ce point. Et ça va aussi de pair. De régner avec le Seigneur, il y a là aussi une unité. Il y a une unité entre le sacerdoce et le royaume. Alors que dans l'ancienne alliance, il y avait les sacrificateurs d'un côté et les rois de l'autre. Mais dans la nouvelle alliance, le sacerdoce et la royauté vont ensemble. Nous le voyons aussi en Jésus. Nous voulons aussi nous l'avons vu hier déjà. Nous n'avons pas besoin de le lire absolument. Dans le service de Melchisédek. Si, lisons-le quand même encore. Dans Hébreux 7. Les premiers versets. Hébreux 7, verset 1. En effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Il le bénit. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Une description merveilleuse, ce sacrificateur selon le royaume, selon l'ordre de Melchisédek. Et nous voyons la royauté et le sacerdoce ensemble. Il est sacrificateur pour l'éternité et il est roi. Roi de la paix, roi de justice. Et nous aussi, nous sommes un sacerdoce et un royaume. Cela va de pair. Ça va ensemble. C'est pourquoi, quand nous servons le Seigneur,
il est important que nous
voyons la position que nous avons dans le Seigneur. Il a une merveilleuse position. Il n'est pas juste un roi. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il a été placé au-dessus de toute puissance, tout royaume, au-dessus de toute chose dans cet univers. Toute chose a été placée sous ses pieds. Point. Il n'y a aucune exception. Tout dans cet univers, dans les cieux, sur la terre, a été placé sous ses pieds. Et ça, c'est la position de notre Seigneur. Est-ce que nous la voyons? Seigneur Jésus, nous devons la voir. Je dois dire que je suis très content de ces dernières conférences d'hiver. Ça m'a donné une nouvelle vision de la position du Seigneur que nous avons considérée. Même Jean a dû être exhorté de regarder. Voici le lion le Judas. Comme Jean, nous voyons souvent un problème, une difficulté, ça n'avance pas. Et là, le Seigneur doit changer notre regard. Voici, il a vaincu le lion de Judas. Il est sur le trône. Il règne. Il va accomplir le plan de Dieu. Peut-être pour toi, cela semble impossible. Mais tourne ton regard. Regarde à lui. Et nous avons toujours à nouveau besoin de cela. Quotidiennement. Chaque jour, il est bon de tourner notre regard et de le contempler. Alléluia, tu es le Seigneur des Seigneurs, tu règnes. Toute chose a été placée sous tes pieds. C'est ce que dit aussi Éphésiens 1. À partir du verset 17 même, au verset 17, Paul prie pour que les yeux du cœur nous... les yeux de notre cœur soient illuminés, afin que nous voyons l'espérance de notre appel, selon la richesse de sa gloire, et quelle est la richesse de la gloire de son héritage dans les saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis sous ses pieds. Ce sont de bons versets à manger. Quand tu manges ces paroles, Alors chaque problème perd de sa grandeur. Et alors nous voyons comme le Seigneur voit, et c'est si bon. Et il a donné pour chef suprême à l'Église. Nous avons été placés, on a été placés aussi dans cette position. L'Église est une avec le Seigneur dans cette position. Alléluia. Et c'est ce que je veux aussi voir. Et je vous demande aussi, est-ce que vous le voyez? Est-ce que nous le voyons? La position de l'Église, notre position en Christ, sur toute puissance, tout nom.
Chef suprême à l'Église
ou la tête qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et aussi, chapitre 2, versets 5 et 6, pour le lire ensemble. Éphésiens 2, versets 5 et 6. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et le verset 7. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Les premiers versets du chapitre 2, mais j'ai l'impression que c'est aussi bon de voir notre arrière-plan est terrible. Nous étions morts dans le péché, dans les transgressions, dans les offenses, nous étions rien. Et pourtant, Dieu nous a placés dans cette position, alléluia. Et c'est pas nous, c'est sa grâce. Et c'est une infinie richesse de sa grâce. Et c'est pourquoi cela nous semble parfois difficile de prendre cette position. Parce que quand nous tombons dans une offense, dans un péché, nous n'avons pas cette position dans cet état de pécheur. Quand j'ai péché, je ne peux pas prendre cette position, je suis en Christ, au-dessus de toute puissance. Je dois quitter cette position de péché. La parole dit même que nous chutons. L'ennemi veut toujours nous faire tomber. Mais cela ne doit pas nous prendre la hardiesse de nous approcher. Cela va avec le sacerdoce. C'est que j'ai appris à m'approcher avec hardiesse, à appliquer le sang de Jésus. Oui, non, Seigneur, en toi, j'ai été justifié. Je lave mes habits. Comme c'est dit dans Apocalypse, heureux ceux qui le font, ceux qui lavent leur robe. Il ne s'agit pas de le savoir et de rester dans sa position de pécheur. Non, il est dit dans Apocalypse 22, 14, heureux ceux qui prennent le sang, qui lavent leur robe. Si tu te sens coupable, prends le sang, sois un sacrificateur, prends le sacrifice du Seigneur et apporte-le. Tu appliques le sang du Seigneur. Seigneur, je te prends comme mon offrande pour les transgressions, pour mon offrande de culpabilité. Tu me laves. Et alors, le verset dit, celui qui fait ça, qui lave sa robe, il a droit à l'arbre de la vie et il entre par les portes dans la ville. Et il sert le Seigneur comme sacrificateur. Il vient au trône. Nous avons ce chemin. Nous pouvons quitter ce domaine terrestre. Et je voudrais encore le dessiner sur le tableau par un schéma. C'est important. Le frère trace une ligne horizontale en bas du tableau.
Et puis, il dessine un homme sur cette terre, cette ligne, c'est la terre. Et nous avons une
vision terrestre, c'est ce qu'il a écrit. Et alors nous voyons des choses qui sont bien plus grandes que nous. Un grand rocher. Donc, il écrit dans ce rocher problème, souci. Et il y a plein de choses qui nous semblent si lourdes, si grandes, trop lourdes. Nous ne pouvons pas les déplacer comme une montagne devant nous. Nous croyons au Seigneur.
Mais le Seigneur est souvent bien loin de nous,
plus loin de nous que le problème. Cet homme devant le rocher, c'est moi, et parfois c'est nous, parfois c'est collectif.
Et alors nous avons une
telle vision du problème, nous voyons le problème devant nous et Jésus est loin derrière nous. Nous appelons peut-être, demandons de l'aide.
Parfois, il manque même
la confiance. Est-ce que le Seigneur peut faire quelque chose? Est-ce qu'il a la situation sous son contrôle? Ça, c'est la vision terrestre que nous avons parfois. Et je voudrais dire,
même dans notre prière,
nous avons toujours à nouveau cette vision dans la manière dont nous prions, mais cela ne correspond pas au Seigneur et à la position que nous avons en lui. Et je voudrais aussi le dire brièvement, dans le point de la prière, notre prière est un service de sacrificateur très important dans la maison de Dieu. C'est un parfum qu'on offre au Seigneur. Nous l'avons déjà vu durant la conférence d'hiver. L'Apocalypse montre que les prières sont des coupes d'or avec un parfum qui monte devant le trône de Dieu. Dans Apocalypse 5 et Apocalypse 8. Et donc, la question, c'est quelle vision nous avons quand nous prions dans ce service? Quand nous prions avec ces problèmes-là, avec cette vision céleste, c'est orienté par les problèmes, il y a beaucoup de plaintes. Ou est-ce que j'ai une prière devant le trône, dans cette unité avec le Seigneur? Et je dois dire, il y a une différence que nous ressentons parfois. Je remarque parfois avec quelle attitude je prie et je voudrais exercer mon service dans la prière. Et parfois, il y a eu des communions de prière où quand j'ai prié après, j'étais pas rafraîchi, j'étais même plus lourd après parce que je n'ai que regardé le problème. Je n'ai prié que pour le problème.
Je voulais amener le
Seigneur, mais j'étais pas dans la bonne position. Et là, nous devons apprendre à prier comme des sacrificateurs qui sont des rois, qui règnent. Et notre position est celle que nous avons dans Éphésiens 2. Nous sommes avec Christ dans les cieux, bien au-dessus de tout problème. Et ça, c'est une autre position. Alors, le frère, il part du rocher.
C'est un peu difficile
à décrire, mais j'espère que vous avez l'écran devant les yeux. En fait, il dessine le Seigneur sur le trône et nous, de petits bonhommes, dans le grand, qui est le Seigneur, au-dessus de ce problème, sur le trône. Et il a dessiné le Seigneur bien plus grand que le problème. Et ça, c'est la vision céleste. Alléluia. Amen. Et je vais encore écrire
Éphésiens 2, versets 5 et 6.
Die Frage ist, welche Stellung nehmen wir ein?
Et la question,
c'est quelle position nous prenons?
Und Herr Jesus, ich muss sagen, da muss man sich oft wirklich bewusst hinwenden.
Et là, il faut toujours se tourner
notre regard vers notre position. Et il y a des exemples merveilleux. Par exemple, dans Acte 4, situation de l'Église. C'était une situation où pour la première fois après la résurrection du Seigneur, les disciples ont rencontré une opposition forte. Les disciples au chapitre 3 d'Actes avaient guéri un homme et ça avait poussé les chefs des Juifs à les arrêter, à les menacer violemment, où ils n'avaient pas le droit de parler au nom de Jésus. Il y avait là une position très forte. C'est un grand problème. Un grand problème.
Et
c'est merveilleux quand ils sont revenus dans Acte 4, verset 23. Après Acte 4, verset 23, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Ils viennent, ils racontent le problème. Voilà, ils ont raconté tout ce que les sacrificateurs les anciens leur avaient dit. Verset 24, il y a une réaction merveilleuse. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve.
C'est merveilleux comment
ils ont commencé cette prière. Ils n'ont pas dit là, Seigneur, aide-nous, secours-nous. Non, ils ont tourné leur regard. Ils ont tourné ils se sont tournés vers le Seigneur. Et c'est bon de le dire aussi, de commencer en disant, Seigneur, tu as tout fait. Ces anciens, ils font une telle pression. Mais toi, tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es sur le trône. Ils ont élevé leur regard. Ils ont regardé à lui. Verset 25, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples. Verset 26, les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Verset 28. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Tout le monde se sont soulevés, même Pilate, Hérode, ils ont eu toute cette opposition, mais ils avaient une vision claire. Toute cette opposition est là par ta main que, par ta main et par, ils font tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et alors, le problème est devenu si petit. Ce qui se passe, c'est ce que ta main et ton conseil ont arrêté d'avance. Ce qui se passe aujourd'hui en Europe, ce que Poutine fait, ben c'est ce que le Seigneur a décidé en avance. Cette puissance, c'est pas eux qui ont décidé comment ça se développe. C'est Dieu qui décide, je suis certain. Et il va le conduire pour que ça serve sa volonté à la fin. Ça sera ainsi, c'est ainsi. Et c'est merveilleux. Et alors, nous avons la paix. Nous avons la paix, le repos. Qu'importe combien le monde est dans la peur, dans l'effroi, nous savons que la situation est totalement sous le contrôle de notre Seigneur. Et nous sommes un avec lui.
Je vois que c'est si important de prendre cette position dans la prière,
parce que c'est alors que nous pourrons prendre position et servir le Seigneur comme ce sacerdoce royal. Le Seigneur nous a dit, nous devons lier et délier selon sa volonté, que sa volonté s'accomplisse. Et là, il est question d'une autorité, d'une nomination, et pour cela, il nous faut prendre cette position. Seigneur Jésus, je voudrais encore évoquer un point.
Dans Marc 11,
au verset 24, Marc 11, 22 à 24, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne donne de doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Le Seigneur nous pousse à voir sa position, que toute chose est sous ses pieds, même une montagne, pas juste un rocher. Et nous pourrons même dans la prière dire à cette montagne de partir. Et cela, ça arrivera. Mais dans cette prière, nous avons besoin de cette position. Ce ne sont pas des paroles, je le crois. Je suis dans cette position. Et c'est ainsi que je voudrais apprendre à prier. Et je dois dire, j'ai fait des expériences qui m'ont fait douter à cette parole. Parce que j'ai prié, ça ne s'est pas passé. Et je croyais que ça allait arriver. Et c'est pas arrivé. Et alors j'ai pensé, oh, ça fonctionne pas ainsi. Mais sa parole est vraie. Et le point est que le Seigneur parle de cette vision, car il sait que toute chose est sous ses pieds. Chaque montagne, c'est tellement facile à bouger pour lui. Et il voudrait nous amener en lui. Mais il y a d'autres passages qui montrent, nous devons être en lui. Et puis, maintenant, c'est pas comme si nous passions là un examen, tu vas me donner un 20 sur 20 alors que j'ai rien fait. Alors là, on va être déçus. Parfois, nous avons des concepts, des attentes, et nous voudrions utiliser un automate. Nous avons besoin de connaître le cœur du Seigneur. Et le Seigneur donne cette promesse, et je voudrais encore lire dans Jean 15, verset 7. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en moi, alors tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. Il y a là une condition. Demeurez en moi. Nous avons besoin d'être en lui. Et alors nous avons une position sur chaque chose. Et alors il n'y a rien que nous ne pourrons vaincre. Et c'est notre position que nous avons en lui. Et je voudrais apprendre de lui ainsi. Et il y a des expériences parfois où nous avons prié de manière tellement forte pour une chose. Et peut-être j'ai prié selon mes concepts. Je dois alors me tourner et dire, Seigneur, c'était mon concept. J'étais pas en toi. Ça arrive aussi. Alors j'apprends. Mais cela n'enlève rien à cette promesse. Et ça doit pas nous enlever cette hardiesse. Si nous voyons ce que le Seigneur veut faire, nous devons prier en toute hardiesse et lier et délier et amener ce royaume sur la terre. Que le Seigneur nous l'apprenne encore plus. À prendre cette position et à saisir ses promesses et à le servir ainsi, comme un sacerdoce royal pour son royaume. Amen.